Le lendemain de cette conférence, le 30 avril, les frères Cointet firent présenter le premier des trois billets fabriqués par Lucien. Par malheur, l'effet fut remis à la pauvre Madame Séchard, qui, en reconnaissant l'imitation de la signature de son mari par Lucien, appela David et lui dit à brûle-pourpoint « Tu n'as pas signé ce billet ?»« Non, lui dit-il. Ton frère était si pressé qu'il a signé pour moi. » Ève rendit le billet au garçon de caisse de la maison Cointet Frères en lui disant « Nous ne sommes pas en mesure. » Puis, en se sentant défaillir, elle monta dans sa chambre où David la suivit. « Mon ami, dit Ève à Séchard d'une voix mourante, cours chez messieurs Cointet, ils auront des égards pour toi. Prie-les d'attendre et d'ailleurs, fais-leur observer qu'au renouvellement du bail de Cérizet, ils te devront 1000 francs. » David alla sur le champ chez ses ennemis. Un prod peut toujours devenir imprimeur, mais il n'y a pas toujours un négociant chez un habile typographe. Aussi David, qui connaissait peu les affaires, resta-t-il court devant le grand Cointet lorsque, après lui avoir la gorge serrée et le cœur palpitant, assez mal débité ses excuses et formulé sa requête, il en reçut cette réponse. « Ceci ne nous regarde en rien. Nous tenons le billet de Métivier, Métivier nous paiera. Adressez-vous à Monsieur Métivier. »« Oh !» dit Ève en apprenant cette réponse. « Du moment où le billet retourne à Monsieur Métivier, nous pouvons être tranquilles. » Le lendemain, Victor Ange Herménégilde de Doublon, huissier de Messieurs Cointet, fit le proté à 2 heures, heure où la place du Mûrier est pleine de monde. Et malgré le soin qu'il eut de causer sur la porte de l'allée avec Marion et Kolb, le proté n'en fut pas moins connu de tout le commerce d'Angoulême dans la soirée. D'ailleurs, les formes hypocrites de Maître Doublon, à qui le grand Cointet avait recommandé les plus grands égards, pouvaient-elles sauver Ève et David de l'ignominie commerciale qui résulte d'une suspension de paiement? Qu'on en juge. Ici, les longueurs vont paraître trop courtes. 90 lecteurs sur 100 seront affriolés par les détails suivants comme par la nouveauté la plus piquante. Ainsi sera prouvée encore une fois la vérité de cet axiome. Il n'y a rien de moins connu que ce que tout le monde doit savoir. La loi. Certes, à l'immense majorité des Français, le mécanisme d'un dérouage de la banque, bien décrit, offrira l'intérêt d'un chapitre de voyage dans un pays étranger. Lorsqu'un négociant envoie de la ville où il a son établissement un de ses billets à une personne demeurant dans une autre ville, comme David était censé l'avoir fait pour obliger Lucien, il change l'opération si simple d'un effet souscrit entre négociants de la même ville pour affaires de commerce en quelque chose qui ressemble à la lettre de change tirée d'une place sur une autre. Ainsi, en prenant les 3 effets à Lucien, Métivier était obligé, pour en toucher le montant, de les envoyer à messieurs Cointet Frères, ses correspondants. De là, une première perte pour Lucien, désignée sous le nom de « commission pour change de place », et qui s'était traduite par un temps pour cent rabattu sur chaque effet, outre l'escompte. Les effets Séchard avaient donc passé dans la catégorie des affaires de banque. Vous ne sauriez croire à quel point la qualité de banquier, jointe au titre auguste de créancier, change la condition du débiteur. Ainsi, en banque. Saisissez bien cette expression. Dès qu'un effet transmis de la place de Paris à la place d'Angoulême est impayé, les banquiers se doivent à eux-mêmes de s'adresser ce que la loi nomme un compte de retour. Calembour à part, jamais les romanciers n'ont inventé de compte plus invraisemblable que celui-là. Car voici les ingénieuses plaisanteries à la mascarille qu'un certain article du Code de commerce autorise, et dont l'explication vous démontrera combien l'atrocité se cache sous ce mot terrible, la légalité. Dès que Maître Doublon eut fait enregistrer son proté, il l'apporta lui-même à messieurs Cointet Frères. L'huissier était en compte avec ses loups serviers d'Angoulême et leur faisait un crédit de 6 mois que le grand Cointet menait à 1 an par la manière dont il le soldait, tout en disant de mois en mois à ce sous-loup servier « Doublon, vous faut-il de l'argent ? Ce n'est pas tout encore. » Doublon favorisait d'une remise cette puissante maison, qui gagnait ainsi quelque chose sur chaque acte. À rien, une misère, 1 franc 50 centimes sur un proté. Le grand Cointet se mit à son bureau tranquillement et prit un petit carré de papier timbré de 35 centimes tout en causant avec Doublon de manière à savoir de lui des renseignements sur l'état vrai des commerçants. « Eh bien, êtes-vous content du petit Ganorac ? Il ne va pas mal, dame, un roulage. Ah, le fait est qu'il a du tirage. On m'a dit que sa femme lui causait beaucoup de dépenses. À lui ? S'écria Doublon d'un air narquois. Et le loup-servier qui venait d'achever de régler son papier écrivait en rond le sinistre intitulé sous lequel il dressa le compte suivant. Compte de retour et frais. Un effet de 1 000 francs, daté d'Angoulême le 10 février 1822, souscrit par Séchard fils à l'ordre de Lucien Chardon, dit de Rubempré, passé à l'ordre de Métivier et à notre ordre, échu le 30 avril dernier, protesté par Doublon, huissier, le 1er mai 1822. Principal 1000, proté 12,35, commission à 1,5%, 5,00, commission de courtage d'un quart pour cent, 2,50, timbre de notre retraite et du présent, 1,35, intérêt port de lettres, 3, 1024, 20, change de place à 1,25 pour 0 sur 1024, 20, 13, 25, 1037, 45, 1037 francs 45 centimes, de laquelle somme nous nous remboursons notre retraite à vue sur M. Métivier, rue Serpente à Paris, à l'ordre de M. Gannerac de Loumeau. Angoulême, le 2 mai 1822, Cointet Frères. Au bas de ce petit mémoire, fait avec toute l'habitude d'un praticien, car il causait toujours avec Doublon, le grand Cointet écrivit la déclaration suivante. Nous sous-signés Postel, maître pharmacien à Loumeau, et Gannerac, commissionnaire en roulage, négociant cette ville, certifiant que le change de notre place sur Paris est de 1,25%. Angoulême, le 3 mai 1822. Tenez, Doublon, faites-moi le plaisir d'aller chez Postel et chez Gannerac, les prier de me signer cette déclaration et rapportez-la moi demain matin. Et Doublon, au fait de ses instruments de torture, s'en alla comme s'il se fût agi de la chose la plus simple. Évidemment, le protêt aurait été remis, comme à Paris sous enveloppe. Tout Angoulême devait être instruit de l'état malheureux dans lequel étaient les affaires de ce pauvre Séchard. Et de combien d'accusations son apathie ne fut-elle pas l'objet? Les uns le disaient perdu par l'amour excessif qu'il portait à sa femme, les autres l'accusaient de trop d'affection pour son beau-frère. Et quelles atroces conclusions chacun ne tirait-il pas de ses prémices? On ne devait jamais épouser les intérêts de ses proches. On approuvait la dureté du père Séchard envers son fils. On l'admirait. Maintenant, vous tous, qui par des raisons quelconques, oubliez de faire honneur à vos engagements, examinez bien les procédés parfaitement légaux par lesquels en 10 minutes on fait, en banque, rapporter 28 francs d'intérêt à un capital de 1000 francs. Le premier article de ce compte de retour en est la seule chose incontestable. Le deuxième article contient la part du fisc et de l'huissier. Les 6 francs que perçoit le domaine en enregistrant le chagrin du débiteur et fournissant les papiers timbrés feront vivre l'abus encore pendant longtemps. Vous savez d'ailleurs que cet article donne un bénéfice d'1,50 franc au banquier à cause de la remise faite par Doublon. La commission d'un 0,5%, objet du troisième article, est prise sous ce prétexte ingénieux que de ne pas recevoir son paiement équivaut en banque à escompter un effet. Quoique ce soit absolument le contraire, rien de plus semblable que de donner 12 000 francs ou de ne pas les encaisser. Quiconque a présenté les effets à l'escompte sait qu'outre les 6% dus légalement, l'escompteur prélève, sous l'humble nom de commission, un tant pour cent qui représente les intérêts que lui donne, au-dessus du taux légal, le génie avec lequel il fait valoir ses fonds. Plus il peut gagner d'argent, plus il vous en demande. Aussi faut-il escompter chez les sots, c'est moins cher. Mais en banque, y a-t-il des sots? La loi oblige le banquier à faire certifier par un agent de change le taux du change. Dans les places assez malheureuses pour ne pas avoir de bourse, l'agent de change est suppléé par 2 négociants. La commission dite de courtage, due à l'agent, est fixée à 1/4% de la somme exprimée dans l'effet protesté. L'usage s'est introduit de compter cette commission comme donnée au négociant qui remplace l'agent, et le banquier la met tout simplement dans sa caisse. De là, le troisième article de ce charmant compte. Le quatrième article comprend le coût du carré de papier timbré sur lequel est rédigé le compte de retour, et celui du timbre de ce qu'on appelle si ingénieusement la retraite, c'est-à-dire la nouvelle traite, tiré par le banquier sur son confrère pour se rembourser. Le cinquième article comprend le prix des ports de lettres et les intérêts légaux de la somme pendant tout le temps qu'elle peut manquer dans la caisse du banquier. Enfin, le change de place, l'objet même de la banque, et ce qu'il en coule pour se faire payer d'une place à l'autre. Maintenant, à éplucher ce compte, ou selon la manière de supputer du polichinelle de la chanson napolitaine si bien jouée par la Blache, 15 et 5 font 22. Évidemment, la signature de messieurs Postel et Gannerac était une affaire de complaisance. Les Cointet certifiaient au besoin pour Gannerac ce que Gannerac certifiait pour les Cointet. C'est la mise en pratique de ce proverbe connu. Passez-moi la rhubarbe, je vous passerai le séné. Messieurs Cointet frères, se trouvant en compte courant avec Métivier, n'avaient pas besoin de faire traite. Entre eux, un effet retourné ne produisait qu'une ligne de plus au crédit ou au débit. Ce compte fantastique se réduisait donc en réalité à 1000 francs dus, au proté de 13 francs, et un 0,5% d'intérêt pour un mois de retard, en tout peut-être 1018 francs. Si une grande maison de banque a tous les jours en moyenne un compte de retour sur une valeur de 1000 francs, elle touche tous les jours 28 francs par la grâce de Dieu et les constitutions de la banque, royauté formidable inventée par les Juifs au XIIe siècle et qui domine aujourd'hui les trônes et les peuples. En d'autres termes, 1000 francs rapportent alors à cette maison 28 francs par jour ou 10 220 francs par an. Triplez la moyenne des comptes de retour et vous apercevrez un revenu de 30 000 francs donné par ces capitaux fictifs. Aussi, rien de plus amoureusement cultivé que les comptes de retour. David Séchard serait venu payer son effet le 3 mai ou le lendemain même du proté. Messieurs Cointet et frères lui eussent dit « Nous avons retourné votre effet à Monsieur Métivier. » Quand même l'effet se fut encore trouvé sur leur bureau. Le compte de retour est acquis le soir même du proté. Ceci, dans le langage de la Banque de Provence, s'appelle « faire suer les écus ». Les seuls ports de lettres produisent quelque 20 000 francs à la maison Keller, qui correspond avec le monde entier. Et les comptes de retour payent la loge aux Italiens, la voiture et la toilette de Madame la Baronne de Nuchingen. Le port de lettres est un abus d'autant plus effroyable que les banquiers s'occupent de 10 affaires semblables en 10 lignes d'une lettre. Chose étrange, le fisc a sa part dans cette prime arrachée au malheur, et le trésor public s'enfle ainsi des infortunes commerciales. Quant à la banque, elle jette aux débiteurs du haut de ses comptoirs cette parole pleine de raison. Pourquoi n'êtes-vous pas en mesure ? À laquelle, malheureusement, on ne peut rien répondre. Ainsi, le compte de retour est un compte plein de fictions terribles, pour lequel les débiteurs, qui réfléchiront sur cette page instructive, éprouveront désormais un effroi salutaire. Le 4 mai, Métivier reçut de messieurs Cointet et frères le compte de retour, avec un ordre de poursuivre à outrance à Paris, monsieur Lucien Chardon, dit de Rubempré. Quelques jours après, Ève reçut en réponse à la lettre qu'elle écrivit à monsieur Métivier, le petit mot suivant qui la rassura complètement. À monsieur Séchard fils, imprimeur à Angoulême. J'ai reçu en son temps votre estimé du 5 courant. J'ai compris d'après vos explications relativement à l'effet impayé du 30 avril dernier que vous aviez obligé votre beau-frère, monsieur de Rubempré, qui fait assez de dépenses pour que ce soit vous rendre service que de le contraindre à payer. Il est dans une situation à ne pas se laisser longtemps poursuivre. Si votre honoré beau-frère ne payait point, je ferai fond sous la loyauté de votre vieille maison et me dis, comme toujours, votre dévoué serviteur, Métivier. Eh bien, dit Ève à David, mon frère saura par cette poursuite que nous n'avons pas pu payer. Quel changement cette parole n'annonçait-elle pas chez Ève? L'amour grandissant que lui inspirait le caractère de David, de mieux en mieux connu, prenait dans son cœur la place de l'affection fraternelle. Mais à combien d'illusions ne disait-elle pas adieu? Voyons maintenant tout le chemin que fit le comte de retour sur la place de Paris. Un tiers porteur, nom commercial de celui qui possède un effet par transmission, est libre, au terme de la loi, de poursuivre uniquement celui des divers débiteurs de cet effet qui lui présente la chance d'être payé le plus promptement. En vertu de cette faculté, Lucien fut poursuivi par l'huissier de M. Métivier. Voici quelles furent les phases de cette action, d'ailleurs entièrement inutile. Métivier, derrière lequel se cachaient les Cointet, connaissait la salvabilité de Lucien. Mais, toujours dans l'esprit de la loi, la salvabilité de fait n'existe en droit qu'après avoir été constatée. On constata donc la possibilité d'obtenir de Lucien le paiement de l'effet de la manière suivante. L'huissier de Métivier dénonça le 5 mai le compte de retour et le proté d'Angoulême à Lucien, en l'assignant au tribunal de commerce de Paris pour entendre dire une foule de choses, entre autres qu'il serait condamné par corps comme négociant. Quand, au milieu de sa vie de serre aux abois à Lucien lut ce grimoire, il recevait la signification d'un jugement obtenu contre lui par défaut au tribunal de commerce. Coralie, sa maîtresse, ignorant ce dont il s'agissait, imagina que Lucien avait obligé son beau-frère. Elle lui donna tous les actes ensemble trop tard. Une actrice voit trop d'acteurs en huissier dans les vaudevilles pour croire au papier timbré. Lucien eut des larmes aux yeux. Il s'apitoya sur ses chars, il eut honte de son faux et il voulut payer. Naturellement, il consulta ses amis sur ce qu'il devait faire pour gagner du temps. Mais quand Lousteau, Blondet, Bixiou, Nathan eurent instruit Lucien du peu de cas qu'un poète devait faire du tribunal de commerce, juridiction établie pour les boutiquiers, Le poète se trouvait déjà sous le coup d'une saisie. Il voyait à sa porte cette petite affiche jaune dont la couleur déteint sur les portières, qui a la vertu la plus astringente sur le crédit, qui porte l'effroi dans le cœur des moindres fournisseurs, et qui surtout glace le sang dans les veines de poètes assez sensibles pour s'attacher à ces morceaux de bois, à ces guenilles de soie, à ces tas de laine coloriées, à ces brimborions appelés mobilier. Quand on vint pour enlever les meubles de Coralie, l'auteur des Marguerites alla trouver un ami de Bixiou, Desroches, un premier clerc qui venait de traiter d'une étude et qui se mit à rire en voyant tant d'effroi chez Lucien pour si peu de choses. « Ce n'est rien, mon cher, vous voulez gagner du temps ?»« Le plus possible. »« Eh bien, opposez-vous à l'exécution du jugement. »« Allez trouver un de mes amis, Signol, un agréé. Portez-lui vos pièces. » Il renouvellera l'opposition, se présentera pour vous et déclinera la compétence du tribunal de commerce. Ceci ne fera pas la moindre difficulté. Vous êtes un journaliste assez connu. Si vous êtes assigné devant le tribunal civil, vous viendrez me voir, ça me regardera. Je me charge de faire promener ceux qui veulent chagriner la belle Coralie. Le 28 mai, Lucien, assigné devant le tribunal civil, il fut condamné plus promptement que ne le pensait Desroches, car on poursuivait Lucien à outrance. Quand une nouvelle saisie fut pratiquée, lorsque l'affiche jaune vint encore dorer les pilastres de la porte de Coralie et qu'on voulut enlever le mobilier, Desroches, un peu sot de s'être laissé passer par son confrère, telle fut son expression, s'y opposa, prétendant avec raison d'ailleurs que le mobilier appartenait à Mademoiselle Coralie. Il introduisit un référé. Sur le référé, le président du tribunal renvoya les parties à l'audience où la propriété des meubles fut adjugée à l'actrice par un jugement. Métivier, qui appela de ce jugement, fut débouté de son appel par un arrêt le 30 juillet. Le 7 août, Maître Cachan reçut par la diligence un énorme dossier intitulé « Métivier » contre Séchard et Lucien Chardon. La première pièce était la jolie petite note suivante, dont l'exactitude est garantie, elle a été copiée. Billet du 30 avril dernier, souscrit par Séchard fils, ordre Lucien de Rubempré, 2 mai. Compte de retour, 1037-45, 5 mai. Dénonciation du compte de retour et du proté avec assignation devant le tribunal de commerce de Paris pour le 7 mai 8-75, 7 mai. Jugement condamnation par défaut avec contrainte par corps, 35, 10 mai. Signification du jugement, 8-50, 12 mai. Commandement, 5-50, 14 mai. Procès verbal de saisie, 16, 18 mai. Procès verbal d'apposition d'affiche, 15-25. 19 mai. Insertion au journal, 4, 24 mai. Procès verbal de récollement précédant l'enlèvement et contenant opposition à l'exécution du jugement par le sieur Lucien de Rubempré, 12, 27 mai. Jugement du tribunal qui faisant droit renvoie sur l'opposition dûment réitérée les parties devant le tribunal civil, 35, 28 mai. Assignation à bref délai par Métivier devant le tribunal civil avec constitution d'avoué, 6-50, 2 juin. Jugement contradictoire qui condamne Lucien Chardon à payer les causes du compte de retour et laisse à la charge du poursuivant les frais faits devant le tribunal de commerce, 150, 6 juin. Signification du dit 10, 15 juin. Commandement 5-50, 19 juin. Procès verbal tendant à saisie et contenant opposition à cette saisie par la demoiselle Coralie, qui prétend que le mobilier lui appartient et demande d'aller en référé sur l'heure, dans le cas où l'on voudrait passer outre, 20. Ordonnance du président qui renvoie les parties à l'audience en état de référé, 40, 19 juin. Jugement qui adjuge la propriété des meubles à la dite demoiselle Coralie, 250, 20 juin. Appel par Métivier, 17, 30 juin. Arrêt confirmatif du jugement, 250, total 889. Billet du 31 mai, 1037, 45. Dénonciation à Lucien, 8-75, 1046, 20. Billet du 30 juin, compte de retour, 1037-45. Dénonciation à Lucien, 8-75, 1046, 20. Ces pièces étaient accompagnées d'une lettre par laquelle Métivier donnait l'ordre à Maître Cachan, avoué d'Angoulême, de poursuivre David Séchard par tous les moyens de droit. Maître Victor Ange Herménégilde de Doublon assigna donc David Séchard, le 3 juillet, au tribunal de commerce d'Angoulême, pour le paiement de la somme totale de 4018 francs 85 centimes, montant les trois effets et des frais déjà faits. Le jour où Doublon devait lui apporter à elle-même le commandement de payer cette somme énorme pour elle, Ève reçut dans la matinée cette lettre foudroyante, écrite par Métivier. À Monsieur Séchard fils, imprimeur à Angoulême. Votre beau-frère, Monsieur Chardon, est un homme d'une insigne mauvaise foi qui a mis son mobilier sous le nom d'une actrice avec laquelle il vit, et vous auriez dû, monsieur, me prévenir loyalement de ces circonstances, afin de ne pas me laisser faire des poursuites inutiles, car vous n'avez pas répondu à ma lettre du 10 mai dernier. Ne trouvez donc pas mauvais que je vous demande immédiatement le remboursement des trois effets et de tous mes débours. Agréez mes salutations, Métivier.